Radio de la Paix.
Dossier.
Le parc national de Taï, situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, s'étend sur une superficie de 5360 km². Ce parc abrite une diversité extraordinaire d'espèces végétales et animales. Cette forte présence de la faune et de la flore sur cet espace protégé constitue un facteur d'agression par les populations riveraines du parc. Ce dossier de Radio de la Paix vous amène donc à la découverte de ce parc qui, à travers différentes stratégies initiées par l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, est le fleuron des parcs nationaux de Côte d'Ivoire. Présentation Kofi Benson. Le parc national de Taï, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, est la plus grande forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest africaine. Un site qui constitue l'un des rares endroits où l'on peut encore observer des espèces emblématiques telles que les chimpanzés, les éléphants, les buffles, les antilopes et bien d'autres espèces animales. Des espèces dont le nombre est croissant de jour en jour, selon le général Tondosama Adama, directeur général de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves.
L'ensemble des espèces inventoriées en Côte d'Ivoire, en tout cas dans la partie forestière, existe au niveau du parc national de Taï. Ces espèces qui étaient localisées sur certaines parties du parc aujourd'hui sont en train de couvrir l'ensemble du territoire du parc. Cela voudrait dire que le système de gestion qui est en place est bon.
Une bonne gestion qui est par ailleurs le fruit de certains appuis tels que le PIF, le projet d'investissement forestier, visant à la lutte contre le changement climatique. Car en plus de sa richesse en faune et en flore, le parc national de Taï joue un rôle crucial dans la régulation du climat et la préservation des ressources en eau dans la région. En tant que poumon vert de l'Afrique de l'Ouest, le parc de Taï contribue à la préservation des écosystèmes forestiers et à la lutte contre le changement climatique. Une lutte renforcée par le projet d'investissement forestier présenté par Kadio Aloa Kofi, spécialiste en engagement des parties prenantes au PIF 2.
Le projet d'investissement forestier phase 2 vient contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Et le PIF 2 a pour objectif de conserver et accroître le stock forestier, mais aussi améliorer l'accès aux sources de revenus issues de la gestion durable pour les communautés dans les zones cibles. En termes d'activités menées autour du parc national de Taï, nous avons la surveillance. L'OIPR assure la surveillance. Le PIF 2 vient donc apporter un appui financier, mais aussi technique, de sorte à ce que l'OIPR puisse jouer ce rôle de surveillance du parc national de Taï. Il y a un autre volet important, c'est le suivi écologique. Le PIF 2 vient également financer, de sorte que l'OIPR fasse le suivi écologique au niveau du parc national de Taï. À côté de cela, il y a l'éducation environnementale, qui est très importante, parce qu'il faut faire comprendre aux tout petits, comme les personnes âgées, l'importance même de l'environnement, l'importance de l'écosystème, de sorte à ce que, en grandissant, les tout petits puissent avoir cela et enseigner d'autres personnes.
Promouvoir la gestion durable des ressources forestières implique associer les populations vivant à la périphérie du parc, d'où la stratégie d'accompagnement des communautés selon le colonel Diarasuba Aboulaye, directeur de zone sud-ouest de l'OIPR.
Nous devrions accompagner les communautés locales, notamment ceux qui ont fourni des efforts de conservation de la forêt ou qui ont fourni des efforts de reforestation à travers les systèmes agroforestiers. Ça va permettre d'encourager et de motiver davantage.
D'où l'initiative du Prix Vert pour assurer une bonne conservation du parc et répondre aux préoccupations des populations riveraines du parc, précise le capitaine Koné Aristide, chargé d'études à la direction de zone sud-ouest de l'OIPR.
On a été confronté plusieurs fois à ces interrogations des communautés qui disent « Vous, vous conservez le parc national de Taï, nous on vit à côté du parc national de Taï, nous on gagne quoi ?» Donc depuis plusieurs années, l'Office ivoirien des parcs et réserves a mis un point d'honneur sur l'appui aux communautés. Donc pour que les communautés qui sont à la périphérie des aires protégées puissent sentir les retombées de la gestion du parc national de Taï et des aires protégées en général. Et ce prix vert vient pour montrer aux communautés qu'on pense aussi à elles, pour que davantage on puisse aussi les inciter à pouvoir nous aider à conserver le parc national de Taï. C'est vraiment un concours qui met en compétition les villages riverains du parc national de Taï. Et ce concours vise à pouvoir créer une saine émulation au sein des communautés dans la conservation du parc national de Taï. Donc, comme il est intitulé, concours du meilleur village éco-citoyen. Donc cela voudrait dire que c'est un concours qui est lancé entre les différents villages qui sont à la périphérie du parc national des Taillis pour récompenser les efforts consentis par ces villages-là dans la conservation du parc national des Taillis. Donc on veut mesurer l'implication des communautés dans la conservation du parc national des Taillis et des ressources naturelles de façon générale.
Et le PIF 2, le projet d'investissement forestier phase 2, est un appui essentiel du prix vert, un appui justifié par Kadio Aloa Kofi, spécialiste en engagement des parties prenantes au PIF 2.
Le PIF 2 a pour objectif accroître et améliorer le stock forestier, mais aussi améliorer les sources de revenus des communautés qui sont dans les zones ciblées par le projet, de sorte à ce que, à la fin du projet, aussi bien l'aspect forêt et l'aspect social, comment les deux soient conciliés. Avec la démographie, on peut dire galopante, grandissante, les besoins des communautés aussi vont en grandissant. Donc, avec le PIF 2, il y a un aspect important sur les activités génératrices de revenus. À travers donc, l'OIPR, accompagné par Quai International, les communautés sont accompagnées pour mettre en œuvre des activités, de sorte à ce que ce que ces communautés voudraient aller chercher dans le parc soit trouvé en dehors du parc. Et donc, diminuer la pression de ces communautés-là sur le parc national des Taillis.
Le prix vert, après plusieurs années, est adopté par les villages. Et Nyangoya, à travers ses actions, est depuis plusieurs éditions le meilleur des villages riverains du parc national de Taillis. Les raisons avec Shérif Yakuba, porte-parole de Nyangoya.
Nous avons été 3 fois lauréats, 2020, 2021, 2022. Mais avant ça, nous avons sensibilisé, mené des actions autour du parc, ce qui nous a mérité ces prix-là.
Pour qu'on soit premier, on a une association qui lutte pour la protection du parc national de Taillis. Cette association fait des sensibilisations pour les restauratrices ou les braconniers à ne pas aller agresser le parc national de Taillis. Au contraire, la préserver pour que ça nous rende beaucoup de services.
Le parc, c'est vrai, c'est à côté de nous, mais nous ne devons pas d'abord pénétrer, ni couper les arbres, ni chasser les animaux. On dit que si on se comporte bien, on peut avoir beaucoup d'avantages avec le parc. Quand on voit une personne étrangère, quand on sait que c'est quelqu'un qui va rentrer dans le parc pour agresser, on l'interdit de passer dans notre village.
Pour Guy Darus Gagné, représentant du canton Patokloa, le prix vert est une réponse aux préjugés.
Dans certains secteurs, on dit que le PIF ne nous apporte rien. On nous dit de sensibiliser, on sensibilise, mais en retour, on n'y voit rien. L'instauration de ce prix vert, c'est une bonne chose. Avec l'exemple de Doba, qui a déjà réhabilité un bâtiment, le prix vert est la bienvenue.
Autre stratégie de protection sont des micro-projets initiés au profit des populations ayant pour activité principale la pêche sur le lac de Buyo, qui sert de limite du côté nord du parc de Taillis. Colonel Djarasouba Aboulaye, directeur de zone sud-ouest de l'OIPR.
La gestion durable des ressources du lac de Buyo a abouti à une convention qui a été signée entre les acteurs de la pêche, l'OIPR et ses partenaires. On a pensé mettre à leur disposition des fours qui ont un besoin en énergie beaucoup plus faible ou peuvent couper ces trucs pour pouvoir fumer les poissons. En dehors du parc, naturellement, alors ceux qui veulent le conserver frais, ils ont une chambre froide et ça met moins de pression sur le parc.
La cohabitation homme-faune n'est pas toujours aisée dans un univers où l'on prône la protection des animaux. Cependant, ces animaux, à certaines périodes, font des intrusions dans les champs des populations riveraines du parc. Yoma Santia, planteur à Doba, déplore cette situation qui perdure malgré les plaintes.
Les éléphants et les buffles, ils viennent, ils détruisent tout sur leur passage. On ne peut pas les agresser. Jusque-là, il n'y a pas d'indemnisation. Bon, à chaque fois, on dit non, ils remontent l'information et bon, ils vont nous revenir. Bon, jusque-là, rien n'a été fait à ce niveau-là.
Pour le colonel Djarasouba Issa, chef de la cellule du contrôle et de la planification à l'OIPR, tout est mis en œuvre pour la gestion des plaintes.
Il y a un mécanisme de gestion des plaintes qui sera mis en place de sorte que les populations puissent savoir comment réagir, à qui s'adresser pour référer les cas de conflits qui sont enregistrés en périphérie.
Une des pressions du parc national de Taillis est l'orpaillage clandestin qui se pratique à la périphérie du parc. Les effets néfastes de cet orpaillage clandestin sur la population est une réelle préoccupation pour le colonel Djarasouba Aboulaye, directeur de zone sud-ouest de l'OIPR, office ivoirien des parcs et réserves.
L'orpaillage clandestin, c'est un problème national. Mais ce qu'on constate maintenant, c'est que les orpailleurs draguent le fond des cours d'eau. À l'intérieur du parc, ils n'ont pas le temps de déployer tous leurs arsenals. Mais à l'extérieur du parc, qui n'est pas dans notre domaine d'intervention, ça devient un problème. Quand ils vont finir de polluer tous les cours d'eau, c'est cette eau-là que nous buvons. C'est les poissons, c'est cours d'eau que nous mangeons. On risque d'avoir un parc bien conservé avec la population environnante malade. Ça, c'est l'inquiétude qu'on a. Il faut que tous les acteurs s'impliquent dans la lutte contre ce fléau. Les tests qui ont été réalisés montrent un taux de mercure et de cyanure au-dessus de la normale dans le Sassandra. Alors c'est cette eau que tout soubre boit. Les gens, ils ont des embarcations partout sur les cours d'eau. C'est inquiétant.
Le parc national de Tahi, réserve de biosphère depuis 1978, immense réservoir génétique en raison de sa grande superficie et de la richesse de sa biodiversité, mérite une bonne protection et tout est mis en œuvre pour faire face aux agressions. Cette assurance est donnée par le lieutenant-colonel Touré Joseph, coordonnateur de la brigade mobile en charge de la surveillance et de la sécurité du parc national de Tahi.
Le parc national de Tahi regorge pas mal d'espèces emblématiques et les velléités d'agression sont énormes. Au cours des 3 années, le bilan nous indique qu'il y a 301 personnes qui ont été interpellées. On a vu une recrudescence des indices d'agression liés à l'orpaillage. Et c'est en même temps un appel qu'on adresse à la population pour dire que le parc national de Tahi a tous ses rudiments nécessaires pour faire face aux différentes velléités d'agression. Donc il doit se préserver de rentrer dans le parc en vue de l'agresser parce que c'est un bien commun à nous tous.
Bien commun, patrimoine mondial, réserve de biosphère, autant d'atouts pour le parc national de Tahi, nécessitant ainsi des défis à relever, dont le défi de la recherche, suggéré par le professeur Kwasi Lazar, doyen de l'UFR Environnement à l'université Jean-Laurouillon-Guédé de Dalouar.
Les défis à relever, actuellement, les espèces sont connues, identifiées. Il faut maintenant voir leurs habitudes et mener des recherches pour que le comportement des populations puisse permettre à ces espèces de pouvoir trouver la tranquillité dans leur environnement. Il y a les orpailleurs, les braconniers, donc les recherches doivent permettre de séquencer cela. Mais au niveau mondial, nous faisons face à des phénomènes comme le changement climatique qui peuvent avoir des impacts sur les ressources aussi bien végétales que les ressources en eau. Donc nous devons mener les recherches pour non seulement faire des prévisions sur l'évolution donc, de ces ressources pour que les gestionnaires puissent prendre en compte ces résultats dans la planification de ces activités.
Pour le docteur Kwame Dia, enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurouillon-Guédé de Daloua, le parc national de Tahi est essentiel pour la formation des étudiants.
Les parcs et réserves constituent des laboratoires naturels. Il y a plusieurs thématiques concernant les relations entre la faune et la flore qui sont exécutées au niveau du parc national de Tahi par nos étudiants de l'université Jean-Laurouillon-Guédé.
Le parc de Tahi, cet immense réservoir, a donc servi de cadre d'études pour l'interaction sociale et la disponibilité alimentaire traitée par Babomé Clément, membre du groupe de recherche, conservation et valorisation des ressources naturelles.
Les primates sont des singes. Il se trouve que la plupart des primates sont frugivores, qu'ils consomment des fruits. Ces graines sont ensuite déposées dans les crottes tout le long de leur parcours dans les forêts. Alors les primates jouent un rôle important dans la distribution des graines pour la régénération naturelle de nos forêts.
Pour le commun des mortels, le serpent est un animal dangereux, mortel, et le voir suscite une réaction menant à sa destruction pour les plus courageux ou à la fuite pour les moins courageux. Et pourtant, avec des études réalisées dans le parc de Tahi par le docteur Kwadjo Atta Léonard de l'université Jean-Laurouillon-Guédé de Daloua, les serpents sont importants dans les champs.
Et nous avons identifié 16 espèces de lézards et 51 espèces de serpents. Et il faut noter qu'ils sont des animaux très importants. Par la présence des serpents dans un agro-système dans le champ, les serpents vont donc débarrasser nos champs des insectes nuisibles et le rongeur. On peut, à partir des venins des serpents, fabriquer de nouveaux médicaments pour le traitement des tensions artérielles, des AVC. Donc nous encourageons nos parents surtout à protéger ces animaux et à ne pas les tuer lorsqu'ils sont détectés dans la nature parce que par leur venin, on peut sauver aussi des vies.
Sauver des vies à partir du venin de serpent, les moins courageux diront à quel prix ? Une chose est sûre, avec les différentes stratégies de protection du parc, l'on assiste à une croissance des animaux selon le colonel-major Ouattara Kassoum, directeur de l'administration et des ressources humaines à l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves.
Les effectifs de la faune ont considérablement augmenté. Les éléphants tendant vers les 300 dans le parc. Les chimpanzés, nous sommes à plus de 1300 dans le parc national de Tahi.
Des chimpanzés qui constituent une curiosité touristique car ces derniers manipulent plus de 26 outils et sont particulièrement connus pour le cassage des noisettes à l'intérieur du parc et les visiteurs peuvent les observer à une dizaine de mètres. Autre attrait touristique est la rivière Anna qui serpente le parc de l'est à l'ouest et passe au pied du mont Nienokwe d'une altitude de 396 mètres. Son escalade dure 2 heures et arrivée au point culminant, les efforts sont récompensés par une vue panoramique du parc avec pour site de repos Ecotel Turaco, un complexe à l'orée du parc dans la localité de Djourutu. Pour le colonel Diarasuba Aboulaye, le parc est dans un bon état de conservation.
Le parc est dans un état de conservation satisfaisant. Le boulot que nous menons maintenant, c'est de consolider les acquis de gestion et lutter davantage contre le braconnage pour que le parc puisse contenir toujours son nécessaire biodiversité et faire en sorte que les populations se sentent concernées davantage par la gestion de ce site en le considérant comme leur propre bien.
Pour Saraka Kwadjo Amani, chef du village de Sarakadji, c'est un devoir de contribuer à la préservation du parc pour tous les avantages qu'il apporte à l'agriculture.
Nous sommes agriculteurs. Le parc national de Taï est comme un gros parapluie qui nous protège, qui nous permet de produire dans de bonnes conditions. Nous associer à la conservation, c'est un devoir pour nous d'aider à la conservation effective.
De nombreux partenaires, notamment la GIZ et la Fondation des parcs et réserves, œuvrent aux côtés de l'OIPR depuis plusieurs années à la préservation du parc national de Taï. Réussir la conservation passe également par l'implication des médias. Une formation des acteurs de médias a donc été initiée à San Pedro. Assi Constant, chef d'antenne de la radio phare de Tabou, a bénéficié de cette formation.
Au cours de cette formation, ce projet nous a été présenté dans toute son entièreté. Il a été aussi question pour nous de découvrir, pour certains, redécouvrir pour d'autres, le parc national de Taï ainsi que toute sa diversité. Il a été question également pour les formateurs de nous présenter les différents défis, les différentes menaces, ainsi que l'importance pour les populations riveraines de protéger ce patrimoine mondial. Il est important de penser à préserver ce patrimoine-là pour tous les bienfaits en termes de services écosystémiques qu'il apporte à nos populations, ainsi que vraiment à toute la Côte d'Ivoire, voire le monde entier. Parlant du plan national de Taï, on parle d'une question de changement climatique, on parle d'une question de conservation de la biosphère, on parle même d'une question d'apport en oxygène. Eh bien, c'est un privilège pour nous qui sommes dans la périphérie d'avoir ce joyau-là, qui est un joyau mondial qui revient évidemment à notre bénéfice, puisque qui parle du plan national de Taï, parle de la plus grande forêt primaire d'Afrique de l'Ouest, d'où l'importance de la protéger, de passer des messages de sensibilisation en tant que radio de proximité et que ces messages-là soient faits dans l'art de la communication, dans un langage assez accessible à ces populations. Là, et que ensemble nous puissions contribuer à sa préservation. À l'OIPR, notre partenaire de tous les jours, nous rassurons que le travail qui nous a été confié sera fait afin de tous permettre l'accroissement du couvert forestier ainsi que celui de la préservation du parc national Taï, notre patrimoine à tous.
Un patrimoine qui pour l'heure est un modèle et bien conservé selon le colonel Diarasuba Aboulaye, directeur de zone sud-ouest de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves.
Quand vous prenez les documents de l'UICN, de l'UNESCO, le parc national Taï et le parc national de Komoé restent les sites les mieux protégés de la sous-région. On a su ça à Kigali, on était appelé pour partager notre expérience de bonne gestion. Donc on est vraiment satisfait de ces résultats, mais on ne doit pas se limiter à cela. Il y a beaucoup qui reste à faire.
Beaucoup reste à faire et assurer la pérennité de ce joyau de la nature est un impératif si l'on veut permettre au parc national de Taï de conserver sa place de leader des aires protégées. Une vision soutenue par le général Tondosama Adama, directeur général de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves.
Le parc national de Taï, il est patrimoine mondial de l'UNESCO, il est réserve de biosphère. En termes de couverture, c'est à peu près 98% de couverture forestière. Et les 2% qui restent ne sont pas des zones dégradées, c'est les plans d'eau. Donc aujourd'hui, on peut dire que le parc national de Taï se porte à merveille. C'est le fleuron des parcs nationaux de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est dit que le parc national de Taï est le meilleur parc en Afrique de l'Ouest.
En tant que citoyens du monde, nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation du parc national de Taï et de ses trésors naturels. Il est de notre responsabilité de protéger ce patrimoine mondial pour les générations futures et pour le bien-être de la planète dans son ensemble. Ce dossier a été réalisé et présenté par Kofi Benson.
C'était
Radio de la Paix.
Dossier.